Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Radio Campus Grenoble, 90.8. Adrien Beaujean.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. On est ensemble jusqu'à 17h pour Microcité, votre émission hebdomadaire d'information et de débat. Dans une dizaine de minutes, on parlera des risques industriels, comment protéger la population, comment protéger l'environnement. On va tenter d'y répondre avec Antoine Loistron et ses invités. En fin d'émission, Julia Beaufils nous emmènera faire un petit tour dans le Vercors. Depuis 30 ans, le loup est de retour. Éleveurs, habitants et élus de montagne doivent se réadapter à la présence du prédateur. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8, Microcité épisode 4, c'est parti! Et on commence avec le journal de Zoé Ruffy. Bonjour Zoé.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Un repas végétarien par semaine au menu des cantines scolaires.
Oui, c'est un dispositif mis en place le 1er novembre. Nous sommes allés dans une cantine de Grenoble qui s'est mise au repas sans viande hebdomadaire il y a 2 ans. À suivre aussi le décès d'un étudiant à Hong Kong, premier mort depuis le début des manifestations. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé en milieu de journal. Enfin, les Allemands commémoreront demain les 30 ans de la chute du mur de Berlin, symbole de la fin de la guerre froide et de la réunification du pays.
Il est 16h32 sur Microcité.
Ça y est, depuis une semaine, les élèves sont rentrés de vacances et il y a du changement à la cantine. Un menu végétarien sans viande ni poisson une fois par semaine, c'est une conséquence de la loi Egalim. Et la ville de Grenoble a pris de l'avance puisque ça fait 2 ans que 9500 repas végétariens sont servis chaque semaine. Paul Tillier est allé déjeuner avec les élèves de l'école primaire Jean Jaurès pour savoir ce qu'en pensent les enfants.
Aujourd'hui, c'est repas végétarien pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ?
Une poire, du camembert, de la soupe et des haricots et de l'omelette.
Que des bonnes choses. En plus, les produits sont issus de l'agriculture biologique. Le fromage est même local. Paul et Clarisse sont à table. Pour eux, pas de viande dans l'assiette, pas de problème.
Presque toutes les viandes ne tentent pas. Il y a la saucisse et le steak que j'aime bien.
Bah moi, j'aime que le saucisson. Et c'est tout.
Une question de goût pour certains, mais souvent, ce sont les parents qui inculquent ces valeurs à leurs enfants.
Dans notre famille, on trouve que c'est pas bien de tuer les animaux. Mes parents, ils disent non à la viande à l'école parce qu'ils savent pas d'où elle vient.
Fin du repas, les assiettes sont vides, mais est-ce que les estomacs sont pleins ? Pour les détracteurs de cette réforme, un repas végétarien, ça signifie que les enfants ne mangent pas correctement. Marie Jacquemier est la diététicienne du service restauration de la ville de Grenoble.
Il n'y a pas de risque de carence sur des repas végétariens dans la mesure où ce repas, il est compensé par le reste de la journée. On parle bien d'un repas végétarien, c'est ça qui a été rendu obligatoire le 1er novembre, et c'est pas une journée végétarienne. Les inquiétudes sont souvent portées sur le fer et la vitamine B12, ça va être compensé par les autres repas.
Ce menu végétarien hebdomadaire sera expérimenté pendant 2 ans. Petit bémol, cette mesure est obligatoire, mais aucune sanction n'est prévue si ce n'est pas respecté.
Le végétarisme qui n'a pas eu raison de nos habitudes de viandard. En 2018, selon le ministère de l'Agriculture, les Français ont consommé près de 90 kilos de viande. Pour la première fois, la justice valide des arrêtés anti-pesticides pris par deux maires des Hauts-de-Seine à Gennevilliers et à Sceaux. Le tribunal administratif de Pontoise a rejeté un recours de la préfecture contre ces arrêtés. Jusqu'à présent, la compétence des maires vis-à-vis des pesticides n'était pas reconnue. Depuis le début du mois, vous avez peut-être remarqué qu'il y a plus de moustachus dans les rues. On appelle ça Movember. Le principe, c'est de se faire pousser la moustache pour encourager au dépistage du cancer de la prostate. Une action de communication en plus, après Octobre Rose contre le cancer du sein. Mais est-ce que ces actions ont un effet ? Jocelyne Chevalier, responsable du Centre Régional des Dépistages des Cancers.
Ça a une efficacité parce que à un moment donné, on va entendre parler de dépistage et on mesure, oui, une augmentation. Octobre rose, c'est le mois où il y a le plus d'examens de mammographie de dépistage réalisés en Isère et en France globalement. De toute façon, ces grands mouvements nécessitent malgré tout de continuer à aller voir les gens là où ils sont et de ne pas s'appuyer uniquement sur les grandes actions de communication, mais de faire ce travail de terrain qui, nous, est notre quotidien. Ça, vraiment, c'est de l'information et c'est pas de la com.
Depuis sa création il y a près de 20 ans, Movember a mobilisé plus de 600 millions d'euros pour la recherche contre le cancer de la prostate, selon la revue médicale The Lancet. Après Sudrail et l'UNSA ferroviaire, la CGT cheminots appelle cet après-midi à une grève reconductible à la SNCF. Le syndicat encourage les cheminots à s'inscrire massivement dans la grève le 5 décembre. Le trafic de la SNCF qui est perturbé aujourd'hui, comptait 7 TGV sur 10 entre Paris et Strasbourg, en cause une grève des contrôleurs après un changement de leurs horaires. À Hong Kong, la mobilisation ne faiblit pas. Jusqu'ici, malgré quelques heures, la mobilisation restait majoritairement pacifiste. Le week-end dernier, la donne a changé. Julia Beaufils, qu'est-ce qui s'est passé ?
Son nom, Alex Chau. Il était étudiant en informatique à la Faculté des sciences de Hong Kong. Les circonstances exactes de son décès restent encore obscures, mais l'on sait en revanche que le jeune homme a chuté d'un parking à étage lors d'affrontements entre police et manifestants. Alex Chau avait 22 ans.
Mais Julia, pourquoi se trouvait-il là ?
Comme des milliers d'autres manifestants, Alex était dans les rues d'Hong Kong pour protester contre un amendement qui permettrait à la Chine continentale de faire de l'ingérence dans les affaires juridiques de l'île. Voilà maintenant 22 week-ends que les gens envahissent les rues. Et ce, malgré les interdictions de manifester ou encore de porter des masques. Le climat entre forces de l'ordre et manifestants est électrique, mais le jeune étudiant en informatique est le premier décès que l'on déplore depuis le début de la mobilisation. Ce soir, les Hongkongais appellent à une veillée mortuaire en sa mémoire.
Merci Julia Beaufils. Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh. La Turquie annonce cet après-midi qu'elle renverra ses djihadistes prisonniers dans leur pays d'origine. Une décision effective dès lundi, a déclaré le ministre de l'Intérieur turc. L'Allemagne commémore demain les 30 ans de la chute du mur de Berlin. L'événement a enclenché la réunification du pays et la fin de la guerre froide. Un moment inoubliable pour des millions d'Allemands. Parmi eux, Wolf-Dieter Eberwein, un ancien habitant de Berlin-Ouest. Benoît Almeras, vous l'avez rencontré.
Ce professeur d'université a 46 ans au moment de la chute du mur. Pourtant, il ignore ce qui se passe à Berlin. Il se trouve dans un avion.
J'arrive le 10 le matin à l'aéroport de Francfort. J'appelle ma femme pour lui dire que je serai à Berlin dans une heure et qu'elle devrait aller me chercher. Elle n'écoutait pas du tout. Elle dit, le mur est ouvert. Et je dis, écoute, je suis tellement fatigué, j'ai pas envie d'écouter ces conneries.
À l'arrivée de Wolf-Dieter à Berlin, c'est pourtant toute l'atmosphère de la ville qui a littéralement changé.
Il y avait toutes ces petites voitures qui puaient comme n'importe quoi, qui sillonnaient le Kurfürstendamm, j'habitais juste à côté.
Dans la rue, en plus des voitures allemande, c'est la fête entre tous les Berlinois.
Il y avait une sorte de fraternisation. On s'embrassait, on prenait un coup ensemble, on discutait. Personne ne croyait vraiment à ce petit miracle.
Le miracle devient réalité à la réouverture de la porte de Brandebourg. Le professeur peut enfin la traverser librement avec sa fille.
Je l'avais sur mes épaules quand on a passé. Elle avait 8 ans, bon, je ne lui disais pas trop donc tout le contexte, mais c'était amusant quoi.
Wolf-Dieter Eberwein quitte Berlin en 2004, mais il l'affirme, son histoire personnelle sera toujours liée à celle de la capitale allemande.
Les vestiges du mur de Berlin attirent environ 30 millions de visiteurs chaque année.
Zoé Ruffy, on vous donne rendez-vous en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité jusqu'à 17h.
16h38 sur Campus Grenoble, on se retrouve dans quelques minutes pour le dossier d'Antoine Loistron sur les risques industriels, mais avant ça, on fait un léger crochet par les années 80 en musique.
So find another fool like before.
C'était Eye in the Sky du groupe britannique Alan Parsons Project. Il est 16h42, vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h et voici venu le temps de notre sujet de la semaine.
Le dossier.
La France n'est pas préparée aux risques industriels. C'est ce que pointe du doigt un rapport de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. Présenté mardi, ce rapport fait évidemment écho à l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen fin septembre. Il dresse un constat inquiétant concernant l'exposition des populations aux risques industriels, notamment près des sites Seveso, seuil haut. Antoine Loistron.
Et en France, il y a en tout 744 usines qui sont considérées comme Seveso, dont une cinquantaine en Isère. C'est une classification qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines. Et Margot Siffer, éclairez-nous, qu'est-ce une usine Seveso ?
Une usine Seveso, c'est le nom donné aux installations qui présentent une menace industrielle majeure en Europe. Elles sont classées en deux niveaux de risque, Seveso, seuil bas et seuil haut. Et cela en fonction de leur dangerosité, c'est-à-dire suivant la quantité et le type de produit utilisé. Des exigences en matière de sûreté leur sont donc imposées par une directive européenne du même nom. Elle impose notamment aux entreprises de rédiger un rapport de sécurité avec les scénarios d'accidents envisageables et leurs effets. Elle prévoit aussi d'examiner les conséquences d'un incident sur les installations voisines. L'objectif de cette législation, prévenir les accidents majeurs comme les explosions ou encore les fuites de substances toxiques, mais aussi en réduire les conséquences et informer le public.
Maintenant que les bases sont posées, on va voir comment se passe la prévention des populations et comment protéger l'environnement. Avec nous pour en parler, Michel Pourchet, membre de France Nature Environnement Isère. Bonjour.
Bonjour.
Et Robert Duranton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Roussillon, une commune située à la frontière entre l'Isère, l'Ardèche et le Rhône. Votre commune est au cœur de la plateforme chimique Osiris. Cette plateforme chimique regroupe une quinzaine d'entreprises spécialisées dans les engrais ou les compléments alimentaires pour les animaux. Michel Pourchet, quels sont les risques en cas d'accident dans ces usines ?
Ils sont nombreux puisque, par exemple, sur notre région de Grenoble, les risques de l'industrie chimique ont été, les possibilités éventuelles d'accidents ont été dénombrées de supérieures à 200. Je crois que c'est 250 et quelques. C'est ce qu'on pense probable, mais tout ce qui n'est pas prévu, enfin les accidents graves qu'on a pu voir, c'était des choses qui étaient hors prévision. Oui, les risques sont absolument importants, d'autant qu'on a des forts regroupements d'industries avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sont stockés.
Il peut y avoir de la pollution, il peut y avoir des explosions, des choses comme ça qui se passent.
Alors, la pollution, il y en a en permanence. Elle est depuis quelques décennies, c'est relativement récent, mais elle est plus ou moins contrôlée pour certains produits, pas pour tous. Il y a ce qui est émis dans l'air, il y a ce qui est mis dans l'eau, il y a ce qui est mis dans tous les milieux naturels qui sont perturbés. Et il y a ce qui est émis actuellement et puis il y a les résidus qui restent. Par exemple, pour la région du sud grenoblois, où traditionnellement on a... Les industries ont émis beaucoup de mercure. Les sols locaux contiennent du mercure.
Et alors vous, Robert Duranton, est-ce que depuis l'incendie de Lubrizol, les gens semblent plus inquiets dans votre commune ou pas ? Je rappelle que votre commune est près d'usines classées Seveso.
Alors, je rappellerai que la commune de Roussillon donc, est une commune qui s'est développée autour de l'industrie chimique, puisque l'industrie chimique s'est implantée au début du 19e siècle et s'est développée. Donc les populations au départ connaissaient les risques de la plateforme chimique et aujourd'hui les gens sont parfois inquiets mais sont quand même suffisamment prévenus de tout ce qui peut se passer. Et nous avons eu, notamment hier, une journée développement durable dans laquelle la plateforme, enfin les différentes sociétés de la plateforme, venaient présenter leur produits et surtout les investissements qui sont faits en mesure de sécurité et d'environnement.
D'accord. Et justement, par rapport à ces mesures qui sont prises par les usines, est-ce qu'elles sont suffisantes aujourd'hui, monsieur Michel Pourchet, pour combler tous ces travers écologiques qui peuvent être causés par ces usines ?
Non, je pense que les exigences augmentent en fonction du rapport de force entre les citoyens et les gens. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de surveillance, pratiquement. La loi a obligé des surveillances. Et ce que font les industriels, c'est essayer de se conformer à la loi. Il est assez rare que ça soit eux qui aillent plus loin que ce qui leur est imposé. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense que non. Nos exigences, elles augmentent. Et il me semble important de continuer à maintenir une pression sociale pour que ça aille de moins en moins mal. Je ne dirais pas de mieux en mieux, je dirais de moins en moins mal.
Et vous, telle pourrait être la solution, en fait ? C'est trouver faire plus de lois ?
Je ne sais pas si c'est faire plus de lois, mais bon, il y a des choses qui se font. Mais prenons un exemple concret, le décret REACH européen qui impose aux industriels de contrôler les produits pour voir si, avant de les commercialiser, pour voir s'il n'y a pas de risque pour la santé. Bon, en gros, actuellement, il est contrôlé 10% des produits qui sont fabriqués. Donc, est-ce que c'est suffisant, une loi qui met 10 ans qui existe depuis 10 ans, on n'est toujours pas capable de contrôler, de faire ce qu'on a dit. Prenons un autre exemple, les contrôles des légaux pour les produits dans l'air, la législation en France, en Europe, impose 13 polluants à contrôler. Notre pays n'arrive pas, qui a signé ces lois, qui a participé à le faire, n'arrive toujours pas à être dans les normes, en particulier pour les particules fines et les NOx. C'est des lois auxquelles nous avons participé, nous n'arrivons même pas au stade de faire ce que nous avons dit.
Et est-ce que vous, Robert Duranton, en tant qu'élu, vous arrivez à faire entendre ça aux entreprises ou pas ? Ou est-ce que vous essayez de le faire ?
Moi, je repars un peu de façon différente, hein, puisque aujourd'hui, la législation française, c'est quand même, elle s'est bien avancée sur tous les domaines, et nous avons des services comme les services de l'État, la DREAL, qui est chargé de contrôler les installations existantes, hein, pour vérifier que les entreprises soient dans les normes. Donc il y a des contrôles permanents, des audits et des recommandations, voire des obligations de réaliser des choses. Après, on n'est jamais certain que tout sera contrôlé, hein, de façon permanente. Mais disons qu'il y a eu de très grosses améliorations de fait, et on peut dire aujourd'hui que les produits qui sont fabriqués sur les plateformes telles que celle de Roussillon sont quand même connus et surveillés avec des fiches particulières pour chaque produit. C'est ce qu'on peut dire. Après, c'est certain qu'on n'est pas toujours à l'écart de l'incident, puisque l'incident ou l'accident peut arriver à tout moment, et ça, je crois qu'il n'y a pas de risque zéro, hein, dans l'industrie chimique.
Et justement, en parlant d'incident, si jamais il arrivait, l'Association nationale des collectivités pour la mairie, l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, dont on parlait au début de ce dossier, a établi un rapport cette semaine disant que le public n'était pas assez informé. Et justement, nous on a aussi constaté cela dans la rue cette semaine en allant interroger quelques grenoblois.
En cas d'incendie industriel, rien du tout, on n'a aucune consigne, on ne sait rien.
J'ai reçu le prospectus il y a 6 mois qui concerne les différentes consignes à adopter face à des risques liés aux produits chimiques.
J'avais reçu un papier de la mairie, j'ai lu le papier mais je ne me rappelle pas bien. Hein.
Si vous me dites il faut faire ça, c'est ça, le jour où ça arrivera, je crois que j'ai tout oublié tellement qu'on a peur et tout. À mon avis, c'est ça. Franchement, il y aura de la panique totale.
Alors, monsieur le maire, dites-nous, si jamais il y a une catastrophe sur la plateforme chimique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en termes d'alerte ?
Alors, le premier point, c'est si c'est un plan particulier d'intervention qui est déclenché, donc la maîtrise est de la part du préfet. C'est le préfet qui organise les secours en cas d'intervention lors d'un PPI. Alors que dans le cas d'un plan d'opération interne, c'est le directeur de l'établissement qui en est chargé. Donc dans ce cadre-là, le préfet reprend la main hein, sur le PPI et derrière, tout un tas d'informations et de communications doivent être mises en place. Alors elles se font principalement par ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde qui sont établis dans chaque commune. Et les communes principales là, de la vallée du Rhône, c'est-à-dire Salès principalement, derrière on a Roussillon et puis le péage de Roussillon pour cette partie-là. Principalement, hein. Après les risques s'étendent plus loin. Dans ces communes, on a ce PCS qui permet de réunir beaucoup de monde autour du maire ou de son représentant de façon à organiser les secours en fonction des directives préfectorales. Quand je dis en fonction, parce que c'est toujours la préfecture qui dirige les secours. Après, par exemple, on doit avoir suffisamment de lits de secours, de moyens à mettre à disposition pour dire aux gens « restez chez vous hein, », principalement c'est ce qu'il faut qu'on dise, hein, « ne sortez pas dans la rue », des choses comme ça. Donc là, ce sont des moyens. Alors je sais que certaines communes le font par SMS, nous c'est plutôt par voie des médias.
Oui, ça, c'est la radio. Il faut principalement ajouter à la radio, que ce soit France Info, France Bleu ou France Inter, qui donnent ces informations directement à l'antenne. Et est-ce que, Michel Pourchet, vous considérez que ce qui est mis en place dans le cas d'un accident, c'est suffisant pour protéger la population et protéger l'environnement ?
Bon, il y a des choses qui sont faites, mais il me semble, par exemple, que sur la région, il y avait encore des gros problèmes simplement sur les sirènes. Parce qu'il y en a qui dépendaient des mairies, il y en avait d'autres qui dépendaient de la préfecture, il y en avait d'autres qui dépendaient de l'industriel. Donc rien que sur des choses aussi simples que ça, on n'arrivait pas à se foutre d'accord. Donc il existe encore des problèmes. Ensuite, l'information.
Aujourd'hui, bon. C'est la préfecture hein, oui. qui gère ces sirènes. Hein.
Oui, oui.
C'est comme celle des essais le premier jeudi du mois, par exemple, c'est déclenché par la... Par la préfecture.
C'est déclenché par la préfecture, mais par exemple, dans un cas très précis comme Pont de Clé, c'est un monsieur qui est employé municipal, qui a la clé, et puis qui fait marcher la sirène. Donc, s'il est au lit, il faut aller le chercher. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais voilà. Bon, ensuite, l'information. C'est vrai qu'il y a de l'information qui est faite, mais je pense que pour que la parole publique soit crue et il faut lui redonner une valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dit « Tchernobyl, c'est pas passé chez nous », on ne peut pas dire, pour le plus récemment, pour Lubrizol, « on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas dangereux », pour que les gens aient une confiance absolue dans la parole publique. Ça, je pense que regagner cette chose-là, ça prendra des décennies, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'y croit plus. C'est nécessaire, mais ça prendra du temps.
Donc ça prendra, selon vous, plusieurs décennies. Et ce sera le mot de la fin. On est un petit peu pris par le temps, j'en suis désolé. Donc Michel Pourchet, je rappelle, vous êtes membre de France Nature Environnement Isère. Et selon vous, les industriels ne vont pas plus loin que ce qui leur est imposé. Et il faut continuer à maintenir une certaine forme de pression sociale pour que les choses avancent. Robert Duranton, quant à vous, vous êtes maire de Roussillon, une commune qui s'est développée grâce à l'industrie chimique. Selon vous, les gens sont inquiets mais prévenus. 16h55 sur Radio Campus Grenoble, c'est l'heure du long format.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
500, Les services de l'État estiment qu'il y a actuellement 500 loups en France, réintroduits depuis une trentaine d'années. Cet animal qui nourrit toujours beaucoup de fantasmes est bien présent en Isère. Une nouvelle qui réjouit les associations de protection de la nature, mais qui pose des problèmes aux éleveurs. Julia Beaufils a suivi dans les villages du Vercors les traces de la bête.
À Corançon, en Vercors, les premiers flocons viennent habiller les reliefs. D'après un agent du service technique, on croise régulièrement le loup dans la bourgade.
Nous, il est vu presque journalièrement dans nos montagnes par les gens qui gèrent les remontées mécaniques. Donc, ils voient des loups la journée, la nuit, le soir, des gros, des petits, des meutes de 5, 10.
On raconte aussi des histoires de croque-tout au tabac de Saint-Nizier-du-Moucherotte.
C'est l'année dernière ou il y a deux ans. Hein. J'attendais le bus pour aller au collège, donc le ramassage scolaire. Hein. Mais quand ils ont vu le loup qui s'approchait, et ben ils ont eu peur, ils sont partis.
Emmanuel habite la commune aux portes du Vercors et n'en a jamais vu. Pourtant, il souligne que la présence de l'animal cause de réelles difficultés.
L'habitant ordinaire, il n'est pas menacé. Je dirais même que depuis le temps qu'on en parle, on aimerait bien en croiser un jour. Mais par contre, pour les éleveurs, c'est un vrai problème.
Le loup est revenu dans le Vercors à la fin des années 90. Une bonne nouvelle pour la biodiversité et les associations de protection de l'environnement. Mais le bilan des attaques en Isère cette année laisse à voir l'ampleur qu'a pris le problème loup depuis sa réintroduction. Dans le département, c'est la Fédération des Alpages qui s'occupe de recenser les demandes de constat lors de suspicions d'attaques.
Là, on est à plus de 300 demandes de constat reçues depuis le mois de janvier, sachant que ça s'intensifie à partir du mois d'avril à peu près, et c'est très fort l'été.
C'est ici que la relation homme-loup se dégrade. Baptiste Blanc élève avec son père des chèvres et des vaches depuis une décennie à Saint-Nizier-du-Moucherotte.
Notre relation avec le loup, en fait, en territoire d'élevage, elle est impossible. D'année en année, on a la pression qui monte, il y a de plus en plus d'attaques et ouais, c'est vraiment dur à tenir.
Pour se prémunir des attaques, les éleveurs prennent des patous, des chiens de protection qu'ils achètent avec l'aide de l'État et de l'Europe.
Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on a des patous pour l'aide à la protection parce qu'on est obligé d'en avoir.
C'est la loi ?
C'est pas la loi. Si on a une attaque et qu'on veut être indemnisé, on doit prouver qu'on s'est protégé. Ça marche quand même très bien pour notre système parce que les bêtes, ça les assagit. Par contre, le gros problème qu'on a, c'est la cohabitation avec les touristes et les gens extérieurs.
Un cercle vicieux où une des solutions pour contrer les attaques devient à son tour un problème. Alors forcément, le discours des éleveurs fatigués se radicalise.
Qu'on demande que le loup y soit là où il n'y a pas d'élevage. Et que quand il y a une attaque, on lui montre que c'est pas cet endroit qui doit être.
Les pouvoirs publics tentent de soulager les éleveurs avec un accompagnement au dressage des patous. Et pour les loups, selon le maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte, des tirs d'effarouchement sont prévus dans les mois qui viennent pour éloigner le prédateur des zones périurbaines et des élevages. Il est 16h58, vous écoutez Microcité sur Radio Campus, l'heure du rappel des titres avec Zoé Ruffy.
Le tribunal administratif de Pontoise valide deux arrêtés anti-pesticides pris par les maires de Gennevilliers et de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Une première puisque jusqu'ici, la justice considérait que ce sujet ne relevait pas des compétences du maire. Sudrail, l'UNSA ferroviaire et depuis cet après-midi, la CGT cheminots appellent à une grève reconductible à la SNCF le 5 décembre. Pour la CGT, le rapport de force doit être supérieur aux grèves de l'an dernier. La Turquie souhaite se séparer des membres de l'État islamique prisonniers incarcérés dans le pays. Et ce, à partir de lundi, a annoncé le ministère de l'Intérieur turc. Aucun pays en particulier n'a été cité pour l'instant.
Et il est presque 17h sur Radio Campus Grenoble, c'est malheureusement l'heure de nous quitter. Je tiens à remercier toute la rédaction, mais aussi Louis Oscovin qui était à la technique aujourd'hui. Microcité, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Vous pouvez également, si ça vous chante, nous rejoindre sur Facebook ou Twitter, @microcité, pour suivre toute l'actualité de l'émission et de l'équipe. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.